VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Robin Dorsil et Tatiana Mosso, ravi de vous retrouver à l'écoute de VOA Afrique et de cette édition du vendredi 7 août 2015. À la une ce soir.
Prise d'otages en cours au centre du Mali. Il y aurait au moins 4 morts, dont 2 militaires. Des hommes armés non identifiés ont attaqué tôt ce matin 2 hôtels de Sévaré. Certains otages ont été libérés. Un assaut est toujours attendu sur place.
République démocratique du Congo. La justice a décidé de suspendre le procès de 2 militants jugés pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Par ailleurs, la terre a tremblé cette nuit à Bukavu.
À 3h25, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 5,9 qui a été suivi.
Dieudonné Wafula, géologue congolais.
Un attentat à la voiture piégée fait au moins 15 morts et 200 blessés à Kaboul, alors qu'au Pakistan, le gouverneur se montre optimiste quant au pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans.
Les principaux candidats à l'investiture du Parti républicain se sont affrontés dans un premier débat télévisé. Idrissa Seloudia nous rejoint en magazine pour une analyse.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. À Sévaré, dans le centre du Mali, une attaque par des hommes armés a fait au moins 4 morts. La cible, un établissement qui hébergeait des ressortissants français, sud-africains et ukrainiens. Certains otages ont été libérés. L'armée malienne affirme avoir bouclé la zone et prépare un assaut pour déloger les assaillants. Nous avons plus de détails sur place avec Mamadou Bokoum.
Les dernières nouvelles, c'est que toujours les deux hôtels sont encerclés, notamment l'hôtel Biblos et l'hôtel Debo. Alors les forces armées de sécurité ont cerné les lieux, attendant impatiemment la force spéciale de la gendarmerie française, selon nos sources, qui doivent venir décanter la situation. En tout cas, pour l'instant, l'hôtel est encerclé, mais selon le bilan qu'on a reçu ça et là, c'est qu'il y a eu 5 morts côté militaire malien, 2 morts sont par bavure, selon les informations, et du côté assaillants, ils ont retrouvé 4 morts. Parmi les morts, il y a un certain nommé Amadou Tungara qui serait un noir qui ressemblerait beaucoup aux djihadistes selon le surveillant général de l'hôpital Soumine Dolo de Mopti. En tout cas, pour l'instant, la situation dans la ville est calme. Les gens essaient de reprendre les activités petit à petit. Pas de panique. Mais ce qui est sûr, toujours, l'hôtel est encerclé par les forces de sécurité maliennes.
Mamadou Bokoum, comment se présente la situation sécuritaire en général dans cette région du Mali?
Nous l'avons toujours dit, la région de Mopti est l'une des régions les moins sécurisées de l'ensemble du territoire. Contrairement à ce que les gens pensent, que le nord est dans l'insécurité, d'accord, mais quand tu prends dans le Machina, vers le Machina jusque dans le delta intérieur du Niger, aucune autorité ne dicte sa loi là-bas.
C'était notre correspondant dans le centre du Mali, Mamadou Bokoum, joint par Chérubin Dorsil.
En République démocratique du Congo, Frédéric Bomawingai, Yves Makwambala, Mansiam Foulou, poursuivis devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, étaient devant leur juge. Aujourd'hui, ils sont accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, association de malfaiteurs, tentative de renverser ou d'interrompre les institutions légalement établies, atteinte à la vie du chef de l'État et trahison. Les avocats de la défense ont demandé au tribunal de sursoir à cette affaire. Je vous propose d'écouter Maître Georges Kapiamba.
À l'audience d'aujourd'hui, nous avons fait constater au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qu'il doit sursoir à l'instruction du dossier ou du procès parce que depuis le 24 juillet, Fred et Yves ont déjà relevé l'appel contre la décision que le même tribunal a rendue le 3 juillet par laquelle il a rejeté leur requête visant l'annulation de tous les procès verbaux établis par l'ANR. Donc le tribunal a pris acte de ces appels et maintenant nous allons voir les membres du greffe pour que le dossier soit envoyé devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui doit maintenant examiner de nouveau cette requête.
Georges Kapiamba au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'Égypte s'emploie à déterminer le lieu de détention de l'otage croate enlevé par la branche égyptienne du groupe État islamique. C'est ce qu'a indiqué le Caire aujourd'hui. Et le temps presse car les djihadistes ont menacé mercredi d'exécuter Tomislav Salopek dans 48 heures si le gouvernement égyptien ne libérait pas des femmes musulmanes emprisonnées. Eric Manirakiza.
Des efforts intensifs sont déployés d'après le ministère égyptien des Affaires étrangères. Mais l'inquiétude monte sur le sort du Croate à l'expiration aujourd'hui de l'ultimatum du groupe État islamique. Tamislav Salopek, envoyé d'une entreprise française, a été enlevé en juillet dans une banlieue proche de la capitale égyptienne. Il est le premier étranger kidnappé et menacé de mort par la branche égyptienne du groupe État islamique. Nous n'épargnerons aucun effort pour trouver l'otage et assurer sa sécurité, a indiqué le ministère égyptien après une rencontre au Caire du chef de la diplomatie Samer Choukri avec son homologue croate Vesna Pusic. Dans une vidéo mise en ligne mercredi, Tomislav Salopek est montré agenouillé au pied d'un homme cagoulé tenant un couteau. La vidéo ne précise pas quand le compte à rebours a exactement commencé, mais 2 jours se sont écoulés depuis sa publication.
Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré, mis en accusation devant la haute cour de justice de son pays pour haute trahison, ne pourra pas bénéficier de la loi d'amnistie votée en 2012. C'est ce qu'a déclaré le procureur général à la haute cour de justice, Armand Ouedraogo, lors d'une conférence de presse. Cette loi d'amnistie avait été votée en 2012 par un parlement acquis à la cause de Blaise Compaoré et ne couvre pas la période d'après 2012.
Guinée-Bissau, le Premier ministre a annoncé une prochaine dissolution du gouvernement par le chef d'État José Mario Vaz. En raison de divergences à la tête de l'exécutif, le président peut dissoudre le gouvernement, mettre en place une nouvelle équipe et organiser des élections législatives dans les 90 jours qui suivent, selon la Constitution. Parmi les personnes dont le président réclamerait le départ, le ministre des Affaires étrangères, des Ressources naturelles et les secrétaires d'État à la pêche et au trésor.
Le Nigeria veut relancer la fabrication nationale d'armes afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des armes étrangères dans sa lutte contre les insurgés islamistes de Boko Haram. Le président Muhammadu Buhari a demandé au ministère de la Défense de mettre en place un plan, a annoncé son cabinet dans un communiqué. M. Buhari a déclaré que la dépendance du Nigeria vis-à-vis des autres pays pour l'équipement militaire et logistique était inacceptable.
En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara annonce le début des travaux du métro d'Abidjan dès 2015. Bonne nouvelle pour les populations abidjanaises. L'annonce a été faite au cours de son traditionnel message à la nation dans le cadre de la commémoration de la fête de l'indépendance du pays ce jeudi 6 août. Il devrait permettre à des centaines de milliers d'Ivoiriens de se déplacer dans de meilleures conditions.
Les États-Unis exigent un dialogue entre le pouvoir et l'opposition au Burundi et brandissent des menaces de sanctions contre Bujumbura. Rachid Bouda.
Il est extrêmement important que le gouvernement et l'opposition engagent des discussions sous médiation internationale, que ce soit la communauté est-africaine, l'ONU ou l'Union africaine, selon Samantha Power, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. Elle évoque le risque de violence incontrôlable après l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana et la tentative de meurtre de Pierre Claver Bonimpa, un ardent défenseur des droits de l'homme. Les États-Unis et d'autres pays membres examinent des mesures comme des interdictions de visa ou de voyage contre les responsables de violations flagrantes des droits de l'homme ou d'attaques meurtrières.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un attentat au camion piégé a fait au moins 15 morts et plus de 200 blessés aujourd'hui au centre de Kaboul. Parmi les victimes, on dénombre 47 femmes, 33 enfants, selon un porte-parole du président afghan Ashraf Ghani, qui a rendu visite aux blessés à l'hôpital. Anastasie Tudiech nous en dit plus.
L'explosion a creusé un cratère d'environ 10 mètres de profondeur à proximité d'un bâtiment de l'armée et détruit de nombreuses habitations. Les auteurs de cette attaque avaient l'intention de commettre un massacre, a déploré le général Abdulrahman Rahimi, chef de la police de Kaboul. Selon les enquêteurs, le bâtiment militaire proche du lieu de l'attaque serait la cible des assaillants. Précisons qu'elle est la première d'envergure dans la capitale afghane depuis la nomination du successeur du Mollah Omar à la tête des talibans. Interrogé par l'AFP, Zabihullah Mojahid, porte-parole des rebelles talibans, a dit ne pas être au courant de cette attaque, qui pourrait porter leur marque. Les talibans avaient tué 9 personnes jeudi au cours d'une série d'attaques dans le pays.
Les autorités pakistanaises ont affirmé ce vendredi que le processus de paix et de réconciliation en Afghanistan se poursuit malgré la mort du Mollah Omar. Les pourparlers se sont arrêtés suite à l'annonce du décès du chef des talibans afghans, mais il ne s'agit que d'une pause, selon le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, qui rejette la thèse selon laquelle le Mollah Omar serait mort au Pakistan en 2013. Islamabad avait prévu d'accueillir samedi, donc demain, un deuxième round de négociations entre Kaboul et les talibans.
En Irak, la plus haute autorité chiite du pays, l'ayatollah al-Sistani, a appelé vendredi le premier ministre Haider al-Abadi à être plus courageux dans sa lutte contre la corruption et à dénoncer publiquement les hommes politiques qui se mettent en travers des réformes. Un de ses représentants l'a déclaré lors de la grande prière du vendredi à Karbala au nom de l'ayatollah, qui n'a fait aucune apparition en public depuis quelque temps. Le premier ministre a réagi en permettant d'agir avec fermeté contre la corruption qui avait marqué le mandat de son prédécesseur Nouri al-Maliki.
Donc une promesse faite par Haider al-Abadi ce vendredi. Nouveau revers pour le président Barack Obama dans ses efforts visant à convaincre les sceptiques au Congrès d'appuyer l'accord sur le nucléaire iranien. L'influent sénateur Chuck Schumer, démocrate de New York, a déclaré ouvertement son opposition à l'accord et promis de voter contre. Schumer, qui est l'un des principaux législateurs juifs américains, a publié sa déclaration peu après une décision similaire par un autre démocrate juif de New York, le député Elliot Engel. Le secrétaire d'État John Kerry a exprimé sa profonde déception à l'annonce du sénateur Schumer. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place maintenant à la Minute Éco, coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Bagassi Koura.
La Côte d'Ivoire célèbre ses 55 ans d'indépendance, occasion pour le président Alassane Ouattara de revenir dans son discours à la nation sur certains acquis économiques de son gouvernement.
Les revenus de nos parents paysans se sont élevés à plus de 5 000 milliards au cours de la dernière campagne agricole. Quant à nos dynamiques femmes, un fonds de microfinance de 8 milliards de francs CFA leur est désormais consacré pour financer leurs activités génératrices de revenus.
Alassane Ouattara a par ailleurs annoncé le début dès cette année des travaux du métro d'Abidjan. Ce projet consistera à construire une ligne ferroviaire de 37 km et devra coûter 600 milliards de francs CFA, selon un haut responsable du ministère des Transports cité par Intel Ivoire. La Banque africaine de développement a accordé une ligne de crédit d'1,6 milliard de francs CFA à Fidélis, une banque du Burkina. Cette ligne de crédit vise à soutenir les petites et moyennes entreprises du Burkina. Nouvel accord de partenariat signé hier entre le Fonds forestier national du Gabon et le Fonds de développement sino-africain. Ce partenariat vise à favoriser la création d'un cadre de coopération en faveur du secteur forêt-bois au Gabon.
Merci Bagassi Koura pour la Minute Éco.
Et on retrouve tout de suite les sports avec Nicolas Pinault. Tirage des matchs de barrage de la Ligue des Champions en Europe.
Valence Monaco et Manchester United Bruges seront les deux affiches dévoilées ce vendredi à Nyon au siège de l'UEFA. Également à retenir la Lazio de Rome contre le Bayer Leverkusen. Astana, le club kazakh contre l'Apoel de Nicosie, et puis le Baté Borisov, le club bulgare contre le Partizan de Belgrade. Les matchs aller auront lieu les 18 et 19 août, les matchs retour une semaine plus tard. La finale, quant à elle, aura lieu le 28 mai 2016 à Milan.
Tirage au sort des barrages de l'Europa League.
Dortmund affrontera les Norvégiens Dodd pour son entrée en lice. L'Ajax d'Amsterdam a connu un sacré camouflet en se faisant éliminer au troisième tour préliminaire de la C1 par le Rapid de Vienne. Conséquence, les hommes de Frank de Boer doivent se concentrer sur cette C3 où ils sont reversés face au méconnu tchèque de Jablonec avec un match retour aux Pays-Bas.
Rubrique transfert.
L'international ghanéen Kevin Prince-Boateng a échoué aux examens médicaux menés par le Sporting Portugal en raison d'un problème au genou. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui Augusto Inacio, responsable des relations internationales du club lisboète. Ces déclarations tranchent avec la version officielle du club qui avait annoncé avoir renoncé à engager le milieu de terrain de Schalke 04 en raison d'un désaccord sur les droits d'image du joueur. Quant au milieu de terrain sénégalais Salif Sané, il a prolongé de 3 ans son contrat avec le club allemand d'Hanovre et ce, à une semaine de l'ouverture de la Bundesliga.
Dopage au Kenya.
Plusieurs athlètes kényans de haut niveau ont demandé un renforcement des mesures pour mieux lutter contre le dopage à la suite des accusations de dopage généralisées au Kenya formulées par le Times et une télévision allemande. C'est ce qu'a déclaré l'ancien recordman du monde du marathon Wilson Kipsang, qui préside l'association des athlètes professionnels du Kenya. Les accusations selon lesquelles 800 athlètes, dont 18 Kenyans, présenteraient des échantillons sanguins aux valeurs suspectes ou hautement suspectes, nuit à la réputation de ce sport, selon lui.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorsil et Tatiana Mosso en votre compagnie. Les dossiers du jour, on commence en République démocratique du Congo, Chérubin.
Des répliques sont encore enregistrées autour de Bukavu, dans le sud Kivu, où un séisme d'une magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi, tuant au moins deux personnes. Eddy Isango a joint le géologue Dieudonné Wafula du centre sismique de Luiro.
À 3h25, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 5,9 qui a été suivi d'une réplique 3 minutes après de 5,5. Il y avait encore une deuxième réplique qui était assez forte, mais toutefois, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de répliques qui se produisent et qui continuent à être enregistrées. Comme bilan, il y a plusieurs maisons qui se sont écroulées, il y a beaucoup de blessés, on parle des morts. Est-ce qu'il y en a d'autres? Nos équipes sont sur le terrain. Peut-être avant le soir, nous saurons exactement ce qu'il y a eu comme dégâts. Il y a des murs qui se sont écroulés sur les prisonniers.
Et quelles sont les régions ou les zones qui ont été touchées par ces séismes?
Il y a des quartiers qui ont été vraiment secoués. Les maisons sont presque toutes suturées. Pour cela, nous demandons aux habitants d'équiper ces maisons, d'abandonner ces maisons, de se tenir à l'écart. S'il y a des maisons où il y a des fissures qui sont déjà prononcées, c'est mieux qu'elles se tiennent dehors et loin de ces maisons. Et par exemple, dans notre ville de Bukavu, il y a beaucoup de maisons en étage qui sont construites n'importe comment. Nous demandons aux gens de s'éloigner de ces bâtiments, de se tenir un peu à l'écart.
Généralement, quand il y a des activités sismiques comme celle qu'on a enregistrée cette nuit, c'est annonciateur d'une éruption volcanique. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une éruption volcanique bientôt?
Puisque nous savons que ce séisme qui se produit non loin de la région volcanique doit avoir un impact quelconque sur l'activité volcanique, mais pas nécessairement donner à une éruption. Pour dire une éruption, il y a quand même des préalables. Est-ce que ces préalables sont là? Par exemple, le niveau élevé du lac de lave au niveau du Miragongo, beaucoup de choses, on ne sait pas. Donc, il faut des observations. Il faut que les équipes, même les collègues qui sont à Goma, puissent travailler pour voir comment se comporte le volcan après ce tremblement de terre. Mais d'emblée, on ne peut pas dire qu'il y aura d'éruption volcanique.
On écoutait le géologue Dieudonné Wafula, joint à Luiro dans le sud Kivu.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Ce vendredi à Lomé du camp binational d'indépendance économique, organisé par les ambassades des États-Unis au Togo et au Bénin en faveur des jeunes femmes, reportage de notre correspondante Kayi Lawson.
Âgées de 23 à 35 ans, les 100 jeunes dames venues du Togo et du Bénin ont montré tout au long de la semaine leur détermination à réussir dans l'entrepreneuriat. Longtemps considérées comme la chasse gardée des hommes, les femmes essaient, non sans contrainte, de percer le mystère du monde de l'entrepreneuriat. Saouda Gbadamassi Imivedor, directrice du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAEJ Togo.
Nous avons remarqué dans nos offres de services que la clé de répartition en faveur des jeunes filles s'établit à 30% contre 70% pour les jeunes hommes. Donc c'est une opportunité formidable de faire émerger l'entrepreneuriat féminin et donc le FAEJ, qui est un dispositif d'appui technique et financier, sera présent aux côtés des Togolaises pour accompagner donc ces jeunes gens à la mise en œuvre de leur projet d'entreprise.
Quelle que soit la nature des apports ou aides que recevront ces jeunes entrepreneurs, la féministe togolaise Christine Agnelé Mensan Atoem estime qu'elles doivent être maîtresses de leur destin en ignorant les barrières culturelles pour cultiver l'excellence.
Elles veulent être des entrepreneurs, il faut qu'elles s'y mettent, qu'elles essayent d'être à la hauteur. Ce n'est pas seulement les hommes qui évoluent, les femmes aussi, elles doivent rechercher surtout la compétence. Les contraintes, ça ne manque jamais. Surtout que nous croupissons encore sous les pesanteurs socio-culturels. Et c'est des chaînes que nous essayons de briser aujourd'hui pour aller de l'avant. Ces contraintes, nous devons les renvoyer derrière pour évoluer.
Un conseil que la béninoise Marie-Danielle de Souza, qui envisage ouvrir une agence de tourisme, dit avoir mis en pratique dans sa vie d'entrepreneur.
Des difficultés particulières? Non, parce que je ne calcule pas ces fameuses difficultés-là, je ne fais pas attention. Je ne me vois pas en tant que femme forcément, mais en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain qui veut entreprendre, donc les petites barrières et tout ça, je ne calcule pas. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu la chance de profiter de cette formation, qui va me permettre d'entreprendre différemment des autres.
La formation a porté non seulement sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur le leadership. Au bout d'une semaine de remise à niveau, c'est avec des idées de collaboration future que les Togolaises et Béninoises se sont séparées. Kailosson Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Alors Tatiana Mosso, il y a aussi cette situation de migrants qui tentent chaque jour de rejoindre la Grande-Bretagne à partir du tunnel sous la Manche.
Exactement, la situation de ces migrants est assez particulière. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies a appelé aujourd'hui la France à présenter un plan d'urgence global pour traiter cette crise avec les moyens mobilisés lors des catastrophes naturelles. On écoute les précisions de William Spindler, porte-parole du HCR.
Nous voudrons des efforts plus actifs de la part de la France, mais aussi du Royaume-Uni, pour résoudre ce problème de longue date. On a une situation avec des migrants et des réfugiés à Calais depuis 14 ans, plus ou moins. Et la situation continue à être très préoccupante avec des centaines de personnes qui restent dans la région de Calais et essayent de traverser vers le Royaume-Uni. Il s'agit des migrants économiques, mais surtout des réfugiés venant des pays en guerre, comme la Syrie, comme l'Irak, comme l'Afghanistan, comme des autres pays où il y a des violations des droits de l'homme. Nous voudrons des actions beaucoup plus fortes, beaucoup plus coordonnées de la part des deux gouvernements pour s'adresser à cette situation.
Alors, est-ce qu'il vous semble que les pouvoirs publics français et anglais sont totalement dépassés par la situation?
Je ne peux pas penser que deux pays assez puissants et riches comme le Royaume-Uni et la France peuvent être dépassés pour la présence de 2000 personnes dans un coin de leur territoire. Il ne s'agit pas de l'impossibilité de s'adresser à la situation, mais de la faillite de la part des mécanismes de réponse à cette situation. La situation de Calais est une situation très particulière et là, on voudrait voir simplement une coopération plus étroite de la part des deux pays. De la part de la France, on voudrait un traitement plus efficace et facile des demandes d'asile qui peut être faites par ces personnes-là. Déjà, cette année, on a vu quelques 1000 demandes d'asile à Calais. En même temps, on demande au Royaume-Uni plus de flexibilité pour le traitement des cas de personnes qui peuvent avoir des liens avec le Royaume-Uni, des liens familiaux surtout.
En attendant que des mesures soient prises, quelle est la situation humanitaire sur le terrain? Est-elle préoccupante selon vous?
La situation est très préoccupante. On a des personnes dans des situations, dans des conditions sanitaires, avec des risques de maladies. On a des personnes qui ont souffert déjà beaucoup, qui ont traversé parfois le Sahara, la mer Méditerranée et toute l'Europe pour arriver jusque-là. C'est une situation complexe, mais nous sommes prêts à participer avec des autres organisations et avec la société civile européenne à trouver des solutions pour cette situation. Mais c'est urgent. On a aussi beaucoup d'enfants avec leurs familles et d'enfants non accompagnés aussi. Et ce n'est pas acceptable de trouver des personnes dans cette situation vraiment déplorable en plein milieu de l'Europe.
William Spindler, porte-parole du HCR, joint à Genève par Jean-Roger Bion.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Politique américaine, cher Hubin.
On continue d'enregistrer les réactions après le premier débat tenu hier à Cleveland dans l'Ohio par les 10 principaux candidats républicains à l'investiture de leur parti pour la présidentielle de 2016. Et naturellement, Tatiana, la performance du milliardaire Donald Trump, vedette de la télévision américaine, il faut le dire, et favori actuel chez les républicains, du moins selon les sondages, était suivi de très près. Et il n'a pas déçu, Idrissa Seloudia.
Oui, à la question de savoir s'il s'engageait à ne pas se présenter comme indépendant s'il n'était pas le porte-drapeau de son parti, Trump s'est refusé à prendre un tel engagement. C'est probablement ce genre de franc-parler qui rend M. Trump si populaire auprès des électeurs comme Brian Todder, un habitant de Philadelphie présent à Cleveland.
Trump,
il est si riche qu'il n'a de compte à rendre à personne et ça terrifie le reste du monde. Et c'est ce dont nous avons besoin. Une journaliste a demandé à Donald Trump s'il ne regrettait pas les propos insultants et humiliants qu'il a eu à tenir sur les femmes, et il a répondu qu'il n'avait pas du temps à perdre, et le pays non plus, avec ses histoires de correction politique. Hannah Hartman, elle, n'est pas impressionnée outre mesure par ce genre de comportement. Il semble que nous avons commencé à perdre le genre de valeur que nous voulons chez un candidat à la présidence. Il semble que ça a trait à l'aspect spectacle plus qu'à autre chose. Le débat a duré 2 heures. Outre M. Trump, il y avait des gouverneurs d'État expérimentés et des sénateurs. Mais ils ont délibérément évité de le cibler dans leurs interventions, ce qui n'a pas été le cas pour le président Barack Obama et son ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, candidate probable des démocrates à la présidentielle de 2016. Jeb Bush, l'ancien favori des républicains, tout en réaffirmant sa fidélité à son père et à son frère, deux anciens présidents des États-Unis, a tenu à souligner qu'il est différent et il a insisté pour être jugé sur ce qu'il a accompli en Floride en tant que gouverneur. Il a cependant reconnu que l'invasion de l'Irak par George W. Bush était une erreur, mais il reproche à son successeur Barack Obama d'avoir créé dans ce pays un vide que le groupe État islamique s'est empressé de combler. Nombre d'autres intervenants ont appelé au recours à des troupes de combat pour aider à vaincre les djihadistes sur le terrain. Mais le sénateur Rand Paul, qui a toujours préconisé moins d'interventions militaires à l'étranger, a invité à la prudence quant à l'assistance aux groupes qui combattent les djihadistes. Le groupe État islamique circule à bord de Humvees américains, qui coûte $1 milliard, a-t-il déclaré.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Jay, please, it's okay. Shake body.
Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est la fin de cette édition. Michel Georges, pardon.
Ils ont tous collaboré à la
Ils ont tous collaboré aujourd'hui.
Michel, Georges et puis Lionel Gaïma.
Ils étaient nombreux et à la console, Wagner Robert.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Hein. Voilà.
Chez Hubert Dorsil.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.